VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
18h30 en temps universel, le monde aujourd'hui, en direct de Washington, au micro, Dilly Dico, bonsoir. À la une de l'actualité, ce jeudi 29 juin, aux États-Unis, la Cour suprême met fin à l'affirmative action, la discrimination positive au sein des universités. Le professeur Mohamed Mbodj nous en dira plus.
L'argent va jouer un rôle extraordinaire parce que lorsqu'on peut payer, on peut entrer.
En France, poursuite des tensions, un adolescent a été abattu par un policier. Les Guinéens aussi réclament justice suite au retour du corps d'un autre jeune tué par la police en France. La justice britannique juge illégal le plan d'expulsion des migrants vers le Rwanda. Ne manquez pas notre rubrique sport et la Minute Éco, tout d'abord le journal. La Cour suprême des États-Unis a mis un terme au programme de discrimination positive à l'université, une nouvelle volte-face historique un an après son revirement sur l'avortement. Alexandrine Rollognon.
Ces 6 magistrats conservateurs ont jugé contre l'avis des 3 progressistes, contraire à la Constitution, les procédures d'admission dans les universités américaines tenant compte la couleur de la peau ou l'origine ethnique des candidats. Beaucoup d'universités ont considéré à tort que le fondement de l'identité d'une personne n'était pas ses compétences ou les leçons apprises, mais la couleur de sa peau, a écrit le juge John Roberts. Plusieurs universités très sélectives ont introduit des critères raciaux et ethniques dans leurs procédures d'admission à la fin des années 1960 pour corriger les inégalités issues du passé ségrégationniste et augmenter la part des étudiants noirs, hispaniques ou amérindiens dans leurs effectifs. Ces politiques, dites de discrimination positive, ont toujours été très critiquées dans les milieux conservateurs, qui les jugent comme du racisme inversé. À la tête d'une association baptisée Students for Fair Admission, un militant néoconservateur Edward Blum avait accusé l'université Harvard et celle de Caroline du Nord de discriminer les étudiants asiatiques. Il avait plaidé que ces derniers, qui ont des résultats académiques supérieurs à la moyenne, seraient beaucoup plus nombreux sur les campus, si leur performance était le seul critère de sélection.
Le président Joe Biden s'est dit en désaccord avec la décision de la Cour suprême et appelé les établissements universitaires à ne pas abandonner leur engagement pour la diversité. Il a ajouté que la Cour suprême est revenue sur des décennies de jurisprudence. Les universités ne devraient pas abandonner leur engagement à garantir que les étudiants aient des expériences diverses qui reflètent toute l'Amérique, a-t-il ajouté. Par contre, l'ex-président Donald Trump a salué la décision de la Haute Cour de mettre fin à la discrimination positive dans les universités, estimant qu'elle rétablissait un système au mérite. C'est un grand jour pour l'Amérique, a-t-il écrit sur sa plateforme Truth Social. Nous revenons à un système entièrement basé sur le mérite et c'est comme ça que ça devrait être, a ajouté M. Trump. Le président français Emmanuel Macron a convoqué jeudi une réunion de crise et dénoncé des violences injustifiables après une deuxième nuit de heurts suite à la mort d'un adolescent tué par un policier près de Paris. Le point avec John Lyndon.
Depuis la mort de Naël, 17 ans, lors d'un contrôle routier mardi, les tensions sont allées crescendo à Nanterre en banlieue parisienne avant de se propager la nuit dernière à d'autres villes, théâtre de dégradations et d'affrontements avec les forces de l'ordre. Le chef de l'État a dénoncé des violences injustifiables contre les institutions et la République à l'ouverture d'une cellule interministérielle de crise qu'il a convoquée au ministère de l'Intérieur. Des mairies, écoles et commissariats ont été incendiés ou attaqués, a indiqué le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur Twitter, précisant que 150 personnes ont été interpellées pendant la nuit, faisant craindre un nouvel embrasement des banlieues. 40 000 policiers et gendarmes sont mobilisés en France, dont 5 000 à Paris et en proche banlieue. La mort de Naël a relancé la controverse sur l'action des forces de l'ordre en France. 13 décès ont été enregistrés en 2022 lors de simples contrôles routiers et le corps d'un jeune Guinéen abattu le 14 juin à Angoulême est arrivé hier soir à Conakry.
Le policier auteur du tir fatal a été inculpé aujourd'hui pour homicide volontaire et placé en détention provisoire, a annoncé le parquet. Le policier déféré ce jour dans le cadre d'une ouverture d'information judiciaire pour homicide volontaire a été mis en examen et placé en détention provisoire, selon un communiqué du parquet. Par ailleurs, le corps du jeune Guinéen de 19 ans, tué lors d'un contrôle routier le 14 juin dans le sud-ouest de la France, a été reçu hier soir à Conakry par sa famille. Les autorités guinéennes réclament justice. Le point avec Nanit Talani.
C'est avec une grande émotion que nous recevons le corps du jeune Alassane Camara. Le chef de l'État avait promis qu'on ramènerait le corps ici en Guinée pour qu'il y ait un enterrement digne, ce qui est fait par la grâce de Dieu, a dit le ministre des Affaires étrangères, Maurice Sonda Kouyaté. La Guinée tient à ce que la justice fasse tout son travail en France pour élucider les conditions dans lesquelles il est décédé, a-t-il ajouté. Fodé Camara, le père de la victime, a remercié les autorités de se tenir aux côtés de la famille. Alassane Camara, arrivé en France en 2018, travaillait dans une base logistique de supermarché et, selon ses proches, il se rendait au travail. Il a été touché mortellement par un tir de policier lors d'un contrôle routier le 14 juin dans la banlieue d'Angoulême. Peu après sa mort, environ 1000 personnes ont participé à une marche pour réclamer justice. Le policier français, un brigadier de 52 ans, auteur du tir, a été inculpé mercredi pour homicide volontaire avec une interdiction de détention d'armes et une interdiction d'exercice professionnel, a annoncé la procureure de la République d'Angoulême.
Le vote du Conseil de sécurité sur la fin réclamée par Bamako de la MINUSMA est prévu demain vendredi. Le 16 juin dernier, devant les 15, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a réclamé le retrait sans délai de la mission onusienne au Mali. La France fait circuler un projet de résolution projetant le retrait de la mission au 30 juin.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La justice britannique a déclaré ce jeudi illégal le projet d'expulsion vers le Rwanda des migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni. Le gouvernement de Rishi Sunak a annoncé vouloir saisir la Cour suprême, Mohamedou Mpha.
La Cour d'appel a estimé que le Rwanda ne peut en l'état être considéré comme un pays tiers sûr, car il existe un risque réel que les personnes qui y sont envoyées soient renvoyées dans leur pays d'origine, où ils étaient en proie à des persécutions et autres traitements inhumains. Toute expulsion vers le Rwanda constituerait une violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui dispose que personne ne peut infliger à quiconque des blessures ou des tortures, a estimé la Cour d'appel. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak s'est dit en désaccord fondamental avec ces décisions et a annoncé que son gouvernement allait demander la permission de saisir la Cour suprême. Le Rwanda est un pays sûr, a-t-il insisté. Pour sa part, le gouvernement rwandais a annoncé rester engagé dans l'accord avec Londres. Si cette décision appartient en dernier ressort à la justice britannique, nous contestons le fait que le Rwanda ne soit pas considéré comme un pays sûr pour les réfugiés et demandeurs d'asile, a dit la porte-parole du gouvernement rwandais, Yolande Makolo.
En Afrique du Sud, 4 personnes sont mortes dans la province du KwaZulu-Natal, dans le sud-est du pays, suite à une tornade et de fortes pluies. Les vents forts et les précipitations ont endommagé des routes, inondé des habitations et des égouts. Nous faisons l'expérience en direct des effets réels du changement climatique pendant la saison hivernale, a indiqué le département de gestion des catastrophes dans un communiqué. Le premier vol commercial de la société de tourisme spatial Virgin Galactic a décollé aujourd'hui avec à son bord des passagers de l'armée de l'air italienne, une mission représentant une étape majeure pour l'entreprise mais qui intervient toutefois avec des années de retard. La société fondée en 2004 par le milliardaire Richard Branson a déjà atteint l'espace 5 fois mais jusqu'ici pour la première fois avec des passagers. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. Maintenant, la Minute Éco, un condensé des nouvelles économiques avec John Lyndon.
Le système de règlement et de compensation entre les monnaies africaines mis en place par Afreximbank vient de franchir un grand pas en annonçant la signature de protocoles d'accord avec 5 groupes bancaires commerciaux multinationaux, notamment Access Bank, EcoBank, KCB, Standard Bank et UBA. Ces partenariats, selon Business Almaq, visent à révolutionner le règlement des transactions transfrontalières en s'appuyant sur le vaste réseau de filiales et de bureaux de représentation dans les principaux centres économiques du continent. L'Afrique du Sud a déclaré jeudi qu'elle va accueillir comme prévu le 15e sommet des BRICS à Johannesburg du 22 au 24 août 2023. Ce groupe rassemble le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud pour encourager la coopération entre ses membres au niveau commercial, politique et culturel. Les BRICS avaient dans un premier temps envisagé de déplacer ce sommet en Chine pour éviter l'application du mandat d'arrêt de la CPI contre Vladimir Poutine. La croissance du produit intérieur brut des États-Unis a été revue fortement en hausse pour le premier trimestre à 2% en rythme annualisé, selon la troisième estimation du département du commerce publiée ce jeudi. L'estimation précédente tablait sur une croissance à 1,3%.
Place au sport avec Nanit Talani. Bonsoir Nanit.
Bonsoir à tous.
Cannes des moins de 23 ans, l'entraîneur des Aigles du Mali exhorte ses poulains à redoubler d'efforts pour leur dernier match de groupe contre le Niger.
Effectivement, pour le coach Badra Alou Diallo, il est plus que nécessaire que ses protégés qui jouent dans le groupe B redoublent d'efforts, surtout pour leur dernier match contre le Niger à Rabat. Ce match sera décisif pour le parcours des Aigles dans cette compétition qui a démarré le 24 juin et prend fin le 8 juillet au Maroc. Le Mali a perdu hier 1-0 face à l'Égypte, championne en titre, lors d'un match très disputé à Tanger, comme le soulignent nos confrères d'Africa Top Sport, surtout quand Mamadi Diambou a reçu un deuxième carton jaune et a ensuite été expulsé pendant le match. D'ailleurs, le sélectionneur a reconnu que le carton rouge a eu un impact significatif sur la performance des Maliens, car il n'est jamais facile de jouer avec un désavantage numérique. Soulignant que les finalistes et le vainqueur des éliminatoires de la troisième place de cette compétition se qualifieront pour le tournoi de football masculin olympique d'été de 2024 à Paris en France, alors que l'équipe classée quatrième jouera les éliminatoires AFC CAF pour décider de la place olympique finale.
Athlétissima, la réunion annuelle d'athlétisme s'est ouverte ce jeudi à Lausanne, en Suisse, pour 2 jours. Le duel Girma-Ingebrigtsen sur 1500 mètres ou l'ivoirienne Marie Talou sur 100 mètres seront les temps forts de demain soir.
Oui, l'Éthiopien Lamesha Girma, tout récent recordman du monde du 3000 mètres steeple avec 7,52 en France, s'aligne sur 1500 mètres à Lausanne face au champion olympique, le Norvégien Jakob Ingebrigtsen. Le duel est d'autant plus alléchant que le Norvégien est en super forme. En témoigne son nouveau record d'Europe établi le 15 juin à Oslo, 3:27.95. Pour sa part, à 34 ans, l'Ivoirienne Marie-Josée Talou brille en ce début de saison où elle s'est montrée la plus rapide sur 100 mètres avec 10.75, alors que ses rivales jamaïcaines, Shelly Ann Fraser, Price Helen, Thompson Ira et Sherika Jackson, ont peu couru et attendent les sélections jamaïcaines pour se dévoiler les 6 et 9 juillet.
Concernant Marie Talou, souvent placée, elle n'a jamais remporté un titre majeur.
C'est d'ailleurs pour remédier à cette situation que l'Ivoirienne a rejoint fin 2021, l'historique entraîneur de sprint américain John Smith. Je suis en super forme cette année avec mon coach. On essaie de nouvelles choses.
Page des sports, VOA Afrique, signé Nanit Talani.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Dili Diko, de retour avec vous. Passons à notre tranche magazine. Ici, aux États-Unis, la Cour suprême met fin à la discrimination positive pour l'enrôlement dans les universités. Les procédures d'admission ne prendront plus en compte l'appartenance raciale, l'origine ou la couleur de peau des postulants. Pour comprendre les implications de cette décision de la Haute Cour, Idriss Fall a joint Mohamed Mbodj, enseignant à Manhattanville College à New York.
Certainement, on ne sait pas trop en ce qui concerne le nombre d'étudiants noirs américains qui vont être acceptés dans les universités. Et il y aura une baisse dans certaines universités, mais les universités ont des principes et des formes d'admission. Peut-être elles vont faire jouer le revenu, elles vont faire jouer le code postal dans lequel cet individu vit, où son lycée se trouve, etc. Donc il y a certainement des moyens de contourner pour éviter un effondrement frappant du nombre d'étudiants noirs acceptés. Mais il y aura au moins dans un premier temps à une sorte de diminution du nombre d'étudiants noirs acceptés dans les universités d'une manière générale.
Mais les conservateurs ont toujours combattu cette discrimination positive et même la qualifiant de racisme inversé.
Oui, ça fait partie un tout petit peu de l'offensive qui a commencé avec Reagan et même avant Reagan contre le Great Society de Johnson et de Kennedy, avec l'idée que la race qui a été utilisée contre les Noirs est maintenant utilisée contre les Blancs. À l'opposé de la manière dont les Noirs et les activistes défendaient le 14e amendement de 1868 qui interdisait de traiter les citoyens américains d'une manière différente, quelle que soit leur race, l'endroit où ils sont nés, etc. Donc c'est une sorte d'attaque pour dire que le 14e amendement n'est pas seulement pour dire que les Noirs sont des citoyens américains, que nul ne peut les traiter différemment. En disant que tous les citoyens américains doivent être traités également, le 14e amendement a fourni les munitions pour attaquer l'affirmative action en disant que lorsqu'on va jusqu'à avoir ce qu'on appelle une discrimination positive, c'est une façon flagrante de fouer le 14e amendement. Cours de justice ont résisté jusqu'à cette génération où les cours ont commencé à dire qu'il y a une date de limite, une date de péremption de cette politique d'affirmative action. C'est là où une autre sorte de munition est allée entre les mains de ses détracteurs et ils ont trouvé un groupe modèle pour porter l'estocade finale. Ce sont les étudiants d'origine asiatique, en particulier d'origine chinoise, coréenne et autres.
Les universités américaines, pour y accéder, il faut de l'argent, il faut beaucoup d'argent. Columbia, c'est 65 000 $ par an. Il y a une chose qui va se poursuivre, c'est la discrimination peut-être par l'argent alors.
Ah oui, la discrimination par l'argent a toujours été là. L'argent va jouer un rôle extraordinaire parce que lorsqu'on peut payer, on peut entrer. Ensuite, lorsqu'on est descendant de quelqu'un qui a déjà fréquenté cette université, on a un peu ce droit historique de préserver l'entrée d'une famille dans une université. Là aussi, ça va réduire le nombre de places à prendre pour ceux dont les parents n'ont jamais fréquenté cette université ou même l'université du tout. Les parents n'ont pas les moyens et l'argent et n'ont pas la capacité de s'endetter à mort pour pouvoir éduquer leurs enfants dans ces universités.
Mohamed Mbodj, professeur d'histoire à Manhattanville College à New York. Bidenomics est le dernier terme à entrer dans le lexique politique américain. C'est le plan que le président Joe Biden a lui-même baptisé et qui vise à forger un avenir économique pour les familles et les communautés qui ont longtemps été oubliées et laissées pour compte. Il s'est rendu mercredi à Chicago, ville légendaire située dans le cœur industriel et agricole du pays, autrefois en plein essor, pour présenter les Bidenomics au monde entier. Anita Powell de la VOA nous en parle de Washington, le récit avec Gabi Dorsil.
Que signifie Bidenomics ? Le président Joe Biden a lancé mercredi sa politique économique à Chicago.
Il y a trois changements fondamentaux que nous avons décidé de faire et nous avons eu l'aide du Congrès pour y parvenir. Premièrement, réaliser des investissements intelligents en Amérique. Deuxièmement, former et responsabiliser les travailleurs américains pour développer la classe moyenne. Et troisièmement, promouvoir la concurrence pour faire baisser les coûts et aider les petites entreprises.
Bidenomics résonne comme Reaganomics, tout en lui prenant le contre-pied. Il s'agit de la théorie lancée par l'ancien président républicain Ronald Reagan dans les années 1980, selon laquelle la prospérité des riches se répercute sur les pauvres. Ici, on l'appelle « trickle-down economy ». Ronald Reagan reste la référence pour les républicains. Les Bidenomics, au contraire, commencent par le bas. Ce dont M. Biden s'est félicité cette semaine en annonçant un investissement de plus de 40 milliards de dollars en faveur de l'Internet à haut débit dans les zones rurales. Il a comparé cette initiative à la démarche progressiste de l'ancien président Franklin Delano Roosevelt visant à électrifier l'Amérique rurale il y a près d'un siècle. Les républicains critiquent le plan Biden pour ce qu'ils considèrent comme des impôts, des réglementations et des dépenses excessives qui, selon eux, augmentent l'inflation et la dette nationale. Quelques heures avant que M. Biden ne prenne la parole à Chicago, les républicains du Sénat ont publié une longue réfutation des Bidenomics. Les sondages montrent, il est vrai, qu'un tiers seulement des Américains approuvent la façon dont Biden gère l'économie. Chris Jackson est vice-président de l'Institut de sondage américain Ipsos.
La mauvaise nouvelle, tout le monde la connaît. La bonne nouvelle, très peu d'Américains la connaissent. Dans un tel environnement, il est difficile de prouver que l'on fait du bon travail lorsque personne ne sait que quelque chose est bon.
Les analystes affirment que le reste de la planète suit de près la plus grande économie du monde dans un contexte de récession en Europe et de faible croissance économique en Chine. Desmond Latchman étudie les questions économiques mondiales à l'American Enterprise Institute.
What occurs in the United States, those conditions get spread.
Ce qui se passe aux États-Unis se propage dans le reste du monde. Ainsi, vous savez, les États-Unis doivent continuer à augmenter les taux d'intérêt, ce qui peut causer de réels problèmes aux économies de marché émergentes qui doivent rembourser leurs dettes en dollars. Cela peut provoquer des tensions financières sur les marchés financiers mondiaux.
Joe Biden a commencé à faire campagne pour de bon. Il affirme qu'il se représente pour finir le travail et l'économie figure parmi les trois principales préoccupations des électeurs américains. Mais le délai entre la mise en œuvre des politiques et leurs résultats se mesure souvent en plusieurs années pour les économistes. Joe Biden n'a que 18 mois pour convaincre les Américains.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum cette semaine. Nous nous intéressons au groupe paramilitaire Wagner et aux questions qui ont émergé sur son avenir suite à sa rébellion avortée en Russie, le même pays où cette organisation controversée a vu le jour le 1er mai 2014. Comment cette mutinerie armée va-t-elle affecter sa présence et ses opérations en Afrique et au Moyen-Orient, de même qu'en Ukraine? Cette crise est-elle le plus grand défi auquel le président russe Vladimir Poutine vient d'être confronté depuis son arrivée au pouvoir il y a plus de deux décennies? Et quid du sort d'Evgeny Prigojine, le patron de Wagner? Rendez-vous ce jeudi à 19h TV.
Les incidents se sont multipliés en France depuis la mort mardi de Naël, un jeune de 17 ans, tué par balle à la suite d'un contrôle routier à Nanterre, à une quinzaine de kilomètres de Paris. La mort de l'adolescent a suscité une forte émotion en France, où une marche blanche a été initiée par la mère du défunt, a réuni des milliers de personnes. Pour une analyse, Mohamed Oumfa a joint Kerwin Maïzo, journaliste et analyste politique basé à Paris.
l'environnement actuel où la police française a brillé par une violence extrême contre les gilets jaunes et puis contre tous les manifestants par rapport au dossier de la prolongation de l'âge de départ à la retraite. Ce sont des événements qui ont fait beaucoup de blessés, des éborgnés. Il y a eu même dernièrement une manifestation des centaines de policiers ont roulé avec des squads sur des manifestants. Tout cet environnement fait des violences, a créé une espèce de ras-le-bol. La marmite était pleine et au moindre petit événement, au moindre petit étincelle, la violence va crescendo. Il faut ajouter à tout cela la discrimination dont est victime les populations des quartiers populaires, généralement dont les parents sont des immigrés, donc les Noirs et les Arabes.
Effectivement, les émeutes sont visiblement parties des banlieues. Y a-t-il un problème français entre les jeunes de ces banlieues et les forces de l'ordre?
Il y a un gros problème, c'est un problème de discrimination. Les jeunes de banlieue qui sont nés ici, qui ne connaissent pas d'autres pays que la France, on les ostracise, ils ne se sentent pas comme français. Il y a une France à deux vitesses. D'un côté, les Caucasiens qui ont accès à toutes les formations, les universités, les travails, tout ce qui valorisant. Tandis que les populations de banlieue, à l'instar des parents, ils sont victimes d'une espèce de plafond de verre. Eux, c'est le football, la musique, ils ne peuvent pas évoluer. Ensuite, il y a, avec la police, un problème particulier de contrôle aux faciès. C'est-à-dire qu'un jeune noir a 10 fois plus de chances de se faire contrôler dans la journée qu'un jeune blanc. Et un jeune noir dans une belle voiture, c'est contrôle au tournant. Donc c'est des rapports très conflictuels. Et puis il y a l'affaire Adama Traoré qui n'a jamais été résolue. Il y a comme ça beaucoup d'affaires qui n'ont pas été résolues, qui énervent les jeunes et qu'au moindre incident, ils manifestent.
Le policier qui a été responsable de la mort du jeune Nahel sera présenté à la justice. C'est probablement un début de solution. Mais au-delà de ça, quelles sont les solutions durables pour améliorer les rapports entre les jeunes des banlieues et les forces de maintien de l'ordre?
C'est déjà une grande première que le policier se retrouve devant le juge. Généralement, on les envoie devant l'inspection générale de la police. Autrement dit, des policiers qui jugent d'autres policiers. Et s'il n'y a pas de caméra, c'est souvent un non-lieu, absence de preuves et tout ça. Ce que les jeunes demandent, c'est la justice. Alors, que doit faire le gouvernement? Le gouvernement doit mettre en place un vaste plan multidimensionnel de lutte contre le chômage, de lutte contre les discriminations, de rénovation des quartiers populaires pour que ces jeunes qui n'ont pas de perspective d'avenir, qui sont victimes de ce plafond de verre, puissent avoir de l'espoir, qu'ils puissent se sentir français.
Kerwin Maïzo, journaliste basé à Paris. Le territoire de Wali-Calais, dans l'est de la République démocratique du Congo, subit durement les conséquences de son enclavement, faute de route pour y accéder et la fermeture du seul aérodrome qui facilitait la communication avec le reste du pays. Le reportage de Zanem Neti Zaidi, notre correspondant à Goma.
Ça fait plus de 3 mois que les aéronefs ne peuvent plus se poser à l'aérodrome de Wali-Calais, fermé par l'aviation civile pour des raisons d'entretien. Et disons, Boutinda, un habitant de Wali-Calais, révèle que l'accès aux produits des premières nécessités est devenu un luxe dans ces coins perdus du Nord Kivu.
La population a difficile à rejoindre le ville car les routes sont impraticables. Les commerçants sont dans les difficultés d'emmener les marchandises de Goma vers Wali-Calais car il n'y a pas la communication. D'où pain de sel, pain du savon. Cela impacte négativement la vie de la population de chez nous à Wali-Calais.
Aucune organisation humanitaire n'a su se rendre à Wali-Calais ces 3 derniers mois. Fiston Misona, président de la société civile, indique que l'accès aux soins de santé est aussi devenu impossible dans ce territoire enclavé de la province du Nord Kivu.
Si aujourd'hui les choses sont bloquées, ça affecte directement sur le plan humanitaire. Il fallait acheminer des médicaments vers Wali-Calais. Ça doit passer par où? Aujourd'hui, il y a des malades qu'il faudrait évacuer de Wali-Calais vers Goma ou Bukavu qui s'en vient par rapport à la spécialité des traitements pour ces malades-là. C'est bloqué. Il arrive des fois qu'il faudrait que les autorités provinciales ou nationales arrivent à Wali-Calais. Ils vont arriver avec quels moyens? Et surtout que nous sommes dans une période électorale.
Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima rassure de son implication personnelle dans cette situation qui met en mal les habitants de Walikale. Il promet d'accélérer les travaux de reconstruction de la route Goma-Walikale, mais en demandant aussi aux services de l'aviation civile de permettre l'ouverture de l'aérodrome.
Nous sommes en train de nous battre pour réouvrir la route Pessaké, Bassisi Centre vers Walikale, parce qu'il y a certaines tâches que nous devions faire pour être en conformité avec le service de l'aviation civile. La population a besoin de produits pharmaceutiques, la population de Walikale a besoin d'évacuation des produits, l'évacuation des minéraux. Tout cela doit trouver solution, du moins avec les petits porteurs, avant l'ouverture de la route.
Walikale, le plus grand territoire du Nord Kivu, par sa taille géographique, reste l'un des plus enclavés et par conséquent parmi les moins développés de toute la République démocratique du Congo. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi Le Monde Aujourd'hui. La mise en onde a été assurée par Lionel Gaïma, Dilidico à la présentation. Merci à toute l'équipe de production et merci pour votre